Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Jean-Louis Deloncle. Aujourd'hui, nous recevons Karima Berger pour parler de sa vision féminine de Dieu. Karima Berger, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour. Marcel Proust disait « Il est très rare qu'un bonheur vienne se poser précisément sur le désir qu'il avait appelé. » Et j'ai tendance à penser qu'il est aussi très rare, en paraphrasant Proust, qu'un livre vienne se poser précisément sur le désir qu'il avait appelé. Et je voudrais vous remercier en ce début d'émission, Karima Berger, d'avoir écrit un livre que je désirais depuis très longtemps. Vous êtes née en Algérie, mais vous vivez depuis plus de 30 ans en France. Et quand on vous lit, on a le sentiment que vous êtes une femme des deux rives et que vous aspirez à recoudre, ou peut-être encore mieux, à retisser l'étoffe déchirée entre ces deux pays, ces deux cultures, ces deux mondes, les trois religions, en vous-même d'abord et pour vos lecteurs ensuite. Plus largement encore, ce que j'ai lu ou entendu de vous, car j'ai eu le privilège de vous écouter parler sous le grand chêne vert du musée Bata à Fès. Donc dans tout ce que j'ai lu de vous, que j'ai entendu, j'ai vu que vous tentez de faire lien, de retrouver l'unité d'un monde éclaté, de réconcilier le féminin et le masculin, la terre et le ciel, le corps et l'âme. Vous avez publié notamment, justement, comme par hasard, « L'enfant des deux mondes » aux éditions de l'Aube en 2002, « Éclat d'islam » chez Albin Michel en 2009, ou encore « Rouge sans vierge » chez Almanach en 2010. Et ces jours-ci, vous publiez aux éditions Albin Michel « Les Attentives », un livre dont la lecture m'a vraiment émue.
Alors, Karima Berger, peut-être avant que vous nous parliez de votre expérience intérieure, de cette rencontre avec Iti Itsoum et de ce que ça nourrit en vous, suscité en vous, parce que vous sous-titrez d'ailleurs votre livre « Les Attentives », un dialogue avec Iti Itsoum. Il faudrait peut-être qu'on parle un petit peu d'Iti Itsoum pour les auditeurs qui ne la connaissent pas. On a déjà consacré une émission à Iti Itsoum il y a quelques temps. Ce serait bien de resituer un petit peu qui est Iti Itsoum.
Tout à fait. Iti Itsoum est une femme absolument magnifique, qui est une jeune femme juive qui vit à Amsterdam, qui a des origines russes, qui lui donne aussi son caractère un peu oriental, sur lequel elle va souvent s'apesantir parce qu'elle va aller chercher dans cet Orient ce qu'elle recherche de Dieu et du divin. Et donc elle vit à Amsterdam dans les années 42. Elle a fait des études de droit et puis elle se cherche comme une jeune femme avec des petits problèmes qu'on dirait aujourd'hui de type névrotique, des soucis de santé, des insomnies, des maux de tête. Elle a une vie amoureuse relativement riche, dense, si je puis dire. Elle vit dans une maison où elle joue le rôle un peu de... Elle tient la maison pour financer ses études. Et dans cette maison, il y a un étudiant, il y a une jeune femme hollandaise, il y a une chrétienne, il y a plusieurs personnes. Et donc, elle vit là et elle a une chambre qu'elle va assimiler à cet intérieur qu'elle recherche, à cette intériorité, à cette intimité avec elle-même qu'elle va rechercher dans tout son travail, dans tout son journal. En 42, elle est encore assez loin de l'étau nazi qui va se resserrer peu à peu autour d'elle. Donc, elle n'en a pas une conscience très, très vive. Elle est plutôt très centrée sur elle-même, sur son nombril. Elle n'arrête pas de dire, mais arrête de te regarder, va chercher autre chose, élève-toi. Donc, elle a le souci de vraiment s'élever. Hein, et elle dit, je veux m'expliquer avec moi-même. Et puis, elle prend rendez-vous avec un homme, Julius Speer, qui est un psychologue, un chirologue. Donc, il lit dans les mains, pas de façon magique, mais de façon scientifique. Il a beaucoup étudié Jung. Et elle va et elle lui livre ses mains. Et déjà, ce premier geste d'introduction de son corps, d'ouvrir ses mains à un homme, dans lesquels il va pouvoir lire des caractéristiques personnelles, psychologiques, eh bien, ça va être le déclencheur, à la fois ce geste-là et à la fois cet homme qui vont lui ouvrir cet univers de l'intériorité qu'elle cherchait. Mais ce que l'on recherche, ce que l'on désire, eh bien, à un moment donné, cela vient sans qu'on l'ait demandé. Et à partir de là, elle ouvre ses mains et le lendemain même ou le soir même, elle ouvre un journal, elle ouvre les pages d'un journal. Voilà. Et Thi va écrire donc un journal jusqu'en novembre 43, c'est-à-dire la date à laquelle elle va être envoyée à Auschwitz. Elle vit à Amsterdam et puis à un moment donné, donc à partir de 43, quand elle sent que la situation devient très très difficile, elle se décide finalement à aller au Conseil juif et se porter candidate pour aider les prisonniers juifs qui sont au camp de Westerbork, qui sont
un camp de transit.
Tout à fait, un camp de transit, hein, tout à fait. Et elle va essayer, elle va vouloir aider, alors qu'elle répugne vraiment. Elle répugne deux choses. Un, à se cacher, puisqu'on lui dit, tous ses amis viennent la voir en lui disant « Mais maintenant, il faut que tu partes, il faut qu'on t'aide. » Il y a même un ami qui veut l'enlever, d'ailleurs. Et elle résiste, elle ne veut pas. Elle dit « Je veux rester avec mon peuple et je veux partager le destin de mon peuple juif. » Et elle veut pas aller non plus dans ce conseil parce que c'est une forme, je dirais pas de collaboration, mais...
elle a l'impression de se protéger, qu'elle,
voilà, elle, voilà, exactement, de se protéger et de se compromettre donc avec l'ennemi nazi. Et puis elle y va et donc elle fait des séjours puisqu'elle peut entrer et sortir. C'est une femme encore libre, si on peut dire. Et là, elle va irradier de sa lumière, de sa beauté intérieure, de sa générosité. C'est pas vraiment le mot qui convient, générosité, mais simplement de sa présence, voilà. Simplement de sa présence, elle va irradier autour d'elle et elle va aider ces gens-là, à la fois des procédures très administratives, hein, des choses, notamment aller négocier avec les autorités pour ne pas faire partie du prochain convoi. Donc elle va négocier, elle va pied à pied et puis elle va aider par sa présence, par sa prière et elle dit qu'elle elle écrit qu'elle se promène ou qu'elle marche dans les allées du camp et qu'elle prie son Dieu en disant « Oh mon Dieu, comme j'aimerais trouver un abri pour toi ». Puisque les gens te rejettent en quelque sorte, eh bien moi je te trouverai un abri, je te trouverai une demeure. Et puis ses parents sont ensuite faits prisonniers dans le camp. Donc ça rajoute à la dramaturgie de la chose, puisque son père, sa mère sont internés, ensuite son frère. Et puis à un moment donné, c'est une sorte de choix pour elle. On dit aux membres du Conseil juif, vous ne pourrez plus avoir la liberté d'aller et venir entre Amsterdam et Westerbork. Et elle décide de rester. Et les camps et les grilles du camp vont se refermer sur elle. Et donc elle sait à partir de ce moment-là qu'elle va compter parmi les futurs déportés qui vont prendre comme chaque mardi le train, si on peut appeler ça un train, un wagon à bestiaux qui va les emmener là-bas, vers la Pologne, vers l'Est.
Et donc on connaît sa vie à travers à la fois son journal et ses lettres qu'elle a écrites à Westerbrook, oui. Sont magnifiques les lettres de Westerbrook, qui ont été publiées en français sous le titre « Une vie bouleversée ». Et c'est comme ça. Alors vous-même, comment est-ce que vous l'avez découverte, Thi Hilsum ?
J'ai découverte dès qu'elle a été publiée, donc c'est-à-dire en 88, je crois, « Une vie bouleversée ». Et déjà, ce chemin intérieur était présent en moi, mais toujours, mon chemin intérieur, il se fait toujours avec l'autre. C'est-à-dire qu'il se fait grâce à l'autre. Ou il se fait, parce que l'autre, c'est aussi le divin, mais c'est aussi l'autre, l'ami, c'est aussi l'époux, c'est aussi l'autre de soi. Et voilà une jeune femme juive qui a eu une éducation extrêmement laïque, dont le père ni la mère ne lui ont rien enseigné, si on peut dire, de sa religion, de sa tradition. Et voilà qu'elle redécouvre, notamment avec ce Julius Speer, elle va redécouvrir les textes de la Bible. Et moi, ça va me parler parce que je suis en train de lire et de retrouver mon propre texte qui est le Coran. Et cette démarche d'une jeune femme juive qui va lire les évangiles ou qui va lire le Cantique des Cantiques ou qui va lire la Torah ou qui va lire saint Paul, eh bien, ça me ramenait aussi à ma démarche qui est de dire que le Coran, il a aussi ses filiations dans une tradition monothéiste. Et que le Coran, sans ces filiations-là, sans la filiation hébraïque ou catholique ou chrétienne, eh bien, il n'est rien, puisqu'il va puiser dans ce patrimoine pour en faire un Coran particulier qui s'adresse, lui, au peuple arabe.
Alors, il y a quelque chose qui vous a frappé dans la lecture d'Itilsoum, c'est que vous avez découvert qu'il y avait une photo qu'il y avait dans sa chambre d'une jeune fille marocaine, je crois. Oui. Et c'est à partir de là, finalement, que ça vous a inspiré pour essayer d'écrire ce dialogue avec elle.
Mais oui, puisque finalement, Itilsoum choisit d'accrocher sur le mur qui est en face de son bureau qui est pour elle un lieu beaucoup plus important qu'un lit nuptial, dit-elle, qui est vraiment son lieu de travail et de recomposition d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle met en face d'elle-même? Elle met une étrangère. Elle met le portrait de quelqu'un qui vient d'ailleurs.
Et on ne sait pas qui c'est cette personne.
On ne sait pas, je pense, c'est une petite Marocaine, donc une photographie d'une jeune adolescente qu'elle a dû
trouver dans le journal,
décrocher dans un magazine et qui a dû lui plaire parce qu'elle a effectivement un regard animal et serein, et dit Itilsoum. Et dans le journal, régulièrement, une dizaine de fois, elle fait référence à cette petite Marocaine qui la regarde et qui l'interroge. Donc c'est aussi au travers de l'altérité du visage d'une autre personne qu'elle va aussi se trouver.
Oui, d'ailleurs, le visage, le portrait a une très grande importance, oui. Puisque c'est pour vous même le point de départ de la découverte d'Itilsoum, c'est d'abord le portrait d'elle sur la couverture du livre. Et vous, pendant longtemps, vous regardez le portrait avant de lire le livre. C'est ce que vous racontez, c'est-à-dire que comme si la surface, d'un coup, permettait d'entrer de l'autre côté du miroir.
Oui, alors, ceci, à vrai dire, j'ai utilisé ce portrait de la petite Marocaine comme un procédé fictionnel pour en faire un dialogue, puisque Etty a écrit en regardant la petite Marocaine. Etty est morte, Etty a disparu, et c'est maintenant la petite Marocaine elle-même qui va prendre la plume et qui va parler et qui va interroger Itilsoum. Et qui va effectivement, dans le livre, la découvrir par l'image.
Oui, et puis vous-même aussi. Oui. C'est-à-dire vous êtes fascinée par ce visage,
oui.
En quelque sorte,
oui.
qui vous parle. Mm. Et alors, vous parlez aussi de votre visite à Westerbork, où, à nouveau, vous voyez une petite Maghrébine, vous imaginez que c'est une Marocaine, mais évidemment, elle peut être de n'importe quelle origine. Et vous vous mettez dans sa tête. Donc, plusieurs fois, vous vous mettez dans la tête de différents personnages pour vous dire, mais que représente pour une jeune Marocaine aujourd'hui, pour une jeune musulmane, en fait, aujourd'hui, l'histoire d'Itilsoum. Alors, oui. Qu'est-ce que ça représente?
Alors, si on part de cette visite à Westerbork, c'est effectivement très marqué par... comment une jeune Hollandaise, bon, elle est fille d'immigrés, j'imagine, parce qu'elle avait un foulard sur la tête, j'imaginais qu'elle était d'origine marocaine parce que ça allait bien avec le fil rouge du livre. Donc c'est très marqué par qu'est-ce que je peux entendre, qu'est-ce que je peux comprendre de l'histoire de ce peuple juif et comment ça vient percuter en moi ma propre histoire de jeune femme arabe ou de petite fille arabe et de ce que j'entends sur le peuple arabe et sur ses souffrances ou ses propres catastrophes. Donc ça, c'est un aspect du livre.
Oui, c'est-à-dire que vous faites sans cesse un va-et-vient, en fait, entre le passé très lointain, le temps de la révélation elle-même, qu'elle soit juive ou musulmane, le temps où a vécu Itilsoum, et le temps où nous vivons, nous. Mmh. C'est-à-dire que vous essayez toujours, et c'est ça qui m'a le plus plu, en fait, dans votre livre, de tisser ces liens invisibles pour montrer que c'est un seul et même mouvement, qui est un mouvement vers soi-même.
Oui.
Alors, comment vous l'avez vécu, ce mouvement vers soi-même, grâce ou à travers, est-il, Soum?
Écoutez, justement, à Westerbork, au musée, il y a une très très belle installation. C'est un mur qui est entièrement recouvert de petites fenêtres, ou de petites portes, disons de petites fenêtres. Et le visiteur est invité à ouvrir chacune de ces fenêtres l'une après l'autre. Et donc, il les ouvre. Et donc, dans la première, on voit les portraits de ceux qui ont été déportés à Auschwitz, l'un après l'autre, une jeune femme, un vieil homme, une femme, etc. Et puis, à un moment, on ouvre une fenêtre et c'est plus quelqu'un qui est parti à Auschwitz, c'est plus un juif, c'est vous-même. Enfin, vous pouvez être juif aussi, mais en l'occurrence, la petite Marocaine va se voir elle-même dans ce miroir. Et donc, ça va créer un choc. C'est vraiment l'aspect extrêmement efficace de cette installation. C'est de se dire que peut-être, moi, demain, je pourrais peut-être vivre la même tragédie.
Oui, mais sous quelle forme? Parce que, justement, alors vous faites un lien en disant il y a une catastrophe à venir. Comment on peut... Finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'indépassable dans la Shoah qui est incomparable? Vous parlez aussi de l'islamophobie, de la catastrophe à venir, qui n'est pas seulement d'ailleurs liée à l'islam. Globalement, vous pensez que le monde va vers une forme de catastrophe, une sorte de Shoah généralisée, spirituellement, on s'entend. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que cette analogie est tenable? Ou est-ce que la Shoah est quelque chose d'indépassable?
Alors, je pense qu'elle est unique. Je ne sais pas si elle est indépassable, je ne sais pas. Ça, c'est les temps futurs qui le diront. Mais je pense qu'elle est unique par l'aspect systématique, par les terribles non-limites que se sont définis les nazis en voulant ramener les juifs de tous les pays d'Europe pour l'exterminer dans un seul et un même endroit de façon scientifique et technique. Et en ce cas-là, c'est effectivement unique.
Mais notre catastrophe d'aujourd'hui, en quoi elle se relie à ce passé-là?
Alors, la catastrophe, peut-être, serait peut-être l'oubli de Dieu. Enfin, c'est-à-dire quelque chose qui déserterait complètement l'être humain. Hein, puisque Eti nous ramène aussi à son humanité, à notre humanité. Et qu'est-ce que c'est qu'un être humain aujourd'hui? Comment il se définit? Par son savoir, par sa raison, mais aussi par son âme et par son esprit. Et ce que dit la petite Marocaine, c'est que l'islam tel qu'elle le voit aujourd'hui, elle craint pour lui et elle craint qu'il soit à son tour objet de défiguration et qu'il n'en reste plus que quelque chose d'aride, de technique au sens des obligations rituelles qui le définissent et qu'il en perde son âme.
C'est-à-dire objet de défiguration par les fidèles eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas une attaque extérieure, c'est un islam qui se formalise de plus en plus sur l'aspect extérieur de la religion et qui est de moins en moins intériorisé.
Complètement, complètement. C'est vraiment quelque chose d'endogène. Alors évidemment, c'est-à-dire ce mouvement que j'appelle de monstration, c'est-à-dire où il faut montrer son identité, il faut montrer son appartenance à l'islam. Bien entendu qu'on peut retrouver des origines dans le social et dans la situation politique, sociale, économique, etc. Hein, ça, c'est clair.
On connaît les causes de ça. Voilà, des causes politiques et effectivement sociales de cette revendication identitaire.
Tout à fait.
Maintenant, vous en déplorez effectivement l'appauvrissement de la religion que ça constitue.
Voilà. C'est-à-dire, c'est vraiment l'appauvrissement de la religion et l'appauvrissement de l'esprit de la religion.
Oui, plus que l'appauvrissement, c'est-à-dire que vous dépassez même la question de l'islam, c'est-à-dire ce que vous craignez, ce que je ressens de ce que vous écrivez, c'est que la catastrophe, c'est que finalement l'humain disparaisse, sorte de ténèbres qui s'abattrait, que vous sentez, que vous pressentez arriver, c'est là où je trouve l'analogie extrêmement intéressante. C'est-à-dire que vous ne dites pas politiquement, nous ne sommes pas menacés comme l'étaient les juifs, évidemment, pendant la Deuxième Guerre, mais vous faites comme elle le fait elle-même d'ailleurs. Mmh. Parce qu'à un moment, elle parle du destin d'un peuple, puis après, elle dit, mais en fait, ça dépasse infiniment le destin du peuple. C'est une sorte de mal absolu et de ténèbres qui nous tombe dessus. Et on a l'impression quand même que vous craignez un retour des ténèbres, pas sous sa forme politique, sous sa forme hautement spirituelle.
D'ailleurs, elle le dit à chaque période, à chaque guerre, ça n'est pas tellement la nature des combustibles qui change, mais c'est plutôt leur intensité. Et que les combustibles, il y en a à chaque fois différents dans chaque guerre. À chaque fois, il y a un motif différent. Et moi, je ne connais pas encore la nature des combustibles qui vont alimenter cette prochaine guerre que je pressens, qui n'est pas forcément une guerre politique, pas forcément une guerre militaire, mais peut-être une guerre où il restera plus grand-chose de l'humain, et de l'humain musulman. Et je me dis, par exemple, cette question qui moi, me travaille beaucoup, cette reconnaissance de la Shoah qui s'est faite par les Palestiniens de façon vraiment claire, de façon solennelle, de façon, presque, je dirais pas contractuelle, mais ça a été signé par les Palestiniens, enfin, cette reconnaissance de la Shoah. Alors évidemment, il y a le président iranien. Bon,
mais il vient de changer. Le nouveau président iranien
a reconnu
la Shoah pour la première fois, effectivement.
Donc là, on passe, il y a une lueur d'espoir. Mais la question, c'est pas seulement de reconnaître. La question, c'est de se dire comment un être musulman aujourd'hui peut aussi penser cette chose-là qui est arrivée, certes pas au peuple arabe, qui est arrivée au peuple juif. Et comme ce qui est arrivé au peuple juif, la petite marocaine dit c'est arrivé au peuple juif, mais nous en sommes tous les héritiers. Donc comment un être musulman peut penser cette Shoah et cette tragédie en tant que musulman? Moi, je n'ai pas la réponse, je ne suis pas théologienne, je suis pas. Mais c'est une question qui m'intéresserait beaucoup d'approfondir. Par exemple, quand on parle de la disparition de Dieu, de l'absence de Dieu pendant la Shoah, est-ce que c'est une question pour un musulman? Est-ce qu'un musulman traiterait la tragédie de la Shoah de cette façon? Ou est-ce qu'il y aurait une autre façon aussi de penser cette tragédie?
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin de Carina Berger pour parler de sa vision féminine de Dieu à l'occasion de la sortie de son ouvrage Les Attentives, un dialogue avec Iti Ilsoum aux éditions Albin Michel. Lélie Anvar.
Alors vous venez de parler justement de la question de Dieu. Je crois qu'on peut s'y attarder parce que c'est quand même un sujet tout à fait central dans votre livre, même si elle est, cette question, totalement liée à une intériorisation, mais radicale, en fait, que vous défendez dans votre démarche spirituelle. Mais avant de mieux définir ce qu'est ce Dieu de Iti Ilsoum et en quoi il nourrit votre propre réflexion et en quoi il peut inspirer aussi ce monde musulman qui est perdu dans sa propre rigidité mortifère, je voudrais vous lire un des passages que je préfère des lettres de Westerbork, dans lequel précisément et Tilsum, parle à ce Dieu dont on voit qu'il n'est pas le Dieu des Juifs, et qu'il est tout simplement son Dieu. Toi qui m'as tant enrichi, mon Dieu, permets-moi aussi de donner à pleine main. Ma vie s'est muée en un dialogue ininterrompu avec toi, mon Dieu, un long dialogue. Quand je me tiens dans un coin du camp, les pieds plantés dans la terre, les yeux levés vers ton ciel, j'ai parfois le visage inondé de larmes, unique exutoire de mon émotion intérieure et de ma gratitude. Le soir aussi, lorsque couché dans mon lit, je me recueille en toi, mon Dieu, des larmes de gratitude m'inondent parfois le visage, et c'est ma prière. Je suis très fatiguée depuis quelques jours, mais cela passera comme le reste. Tout progresse selon un rythme profond, propre à chacun de nous, et l'on devrait apprendre aux gens à écouter et à respecter ce rythme. C'est ce qu'un être humain peut apprendre de plus important en cette vie. Je ne lutte pas avec toi, mon Dieu. Ma vie n'est qu'un long dialogue avec toi. Il se peut que je ne devienne jamais la grande artiste que je voudrais être, car je suis trop bien abritée en toi, mon Dieu. Je voudrais parfois tracer à la pointe sèche de petits aphorismes et de petites histoires vibrantes d'émotions, mais le premier mot qui me vient à l'esprit, toujours le même, c'est Dieu. Et il contient tout et rend tout le reste inutile. Et toute mon énergie créatrice se convertit en dialogue intérieur avec toi. La houle de mon cœur s'est faite plus large depuis que je suis ici, plus animée, plus paisible à la fois. Et j'ai le sentiment que ma richesse intérieure s'accroît sans cesse. Je précise que ça a été écrit le 18 août 1943, c'est-à-dire 3 mois à peine avant sa déportation à Auschwitz, où on ne connaît pas la date exacte d'ailleurs de sa mort. Vous revenez assez longuement sur ça. Qui est le Dieu d'Eti Hilsum?
Il est d'abord, ce qu'on peut dire, elle dit ce que j'appelle Dieu, donc avec une très grande pudeur à chaque fois, parce qu'elle se rend bien compte que ça n'est pas le Dieu hébraïque, ça n'est pas le Dieu de la Bible, mais c'est aussi le Dieu de la Bible, puisqu'elle se nourrit de son écriture, elle se nourrit de ses textes. Et vraiment, cette présence du divin dans Eti, je dirais dans le corps d'Eti, c'est d'abord quelque chose de très intérieur et de très intime. Je prends l'exemple de la prière. On pourrait penser que la prière, c'est ce lien-là qui permet de dialoguer avec Dieu. Elle dialogue avec Dieu, comme vous venez de le lire si magnifiquement. Mais il y a aussi cette prière qu'elle invente, ou que son corps invente. C'est-à-dire que c'est vraiment... Elle se laisse prendre par un mouvement qui lui vient un jour, que personne ne lui a appris, et qui va beaucoup émouvoir la petite Marocaine, bien entendu, et où elle va fléchir un genou, et où elle va se prosterner. Et elle va, pour être vraiment hinnen horchen, comme elle dit, vraiment... pour être à l'écoute de son dedans. Et c'est là aussi où elle cite beaucoup Rilke, qui est l'autre personnage qui va la nourrir aussi de sa poésie. Donc, le dieu d'Eti, c'est un dieu intérieur, un dieu intime, une sorte de chambre dans son espace intérieur, l'espace intime du monde, comme dit Rilke. Et dans cet espace, elle va se mouvoir, elle va se promener, elle va écrire, elle va jouir, elle va lire, elle va prier, elle va... Et ce qui lui donne cette amplitude que les autres lui reconnaissent en lui disant mais vous êtes toujours si radieuse alors qu'elle est dans le camp avec les mains couvertes d'eczéma et qu'elle souffre autant, mais elle a ce Dieu en elle qui la nourrit.
Et c'est ce que vous appelez justement une approche féminine du divin.
Oui, on peut dire ça, c'est-à-dire que... Elle ne cesse de vouloir créer un espace pour son Dieu. Et ce que j'appelle cet espace, on pourrait l'appeler une sorte de vide. À un moment donné, je ou la petite Marocaine, je ne sais plus, lui dit « mais tu es vraiment tissu de vide ». C'est-à-dire qu'elle a une sorte de côte de maille de vide qui lui permet d'absorber les chocs et la souffrance et la violence de l'extérieur. Je dirais que c'est féminin, même si je me pose encore la question, mais c'est vrai qu'il y a une approche féminine dans la mesure où il y a un abri, il y a une demeure, il y a du dedans. Hein. Et cette caractéristique de l'intime presque physique, elle dit, moi je vois les gens, ils prient en regardant le ciel. Et moi, je prie en regardant mes mains, ou je prie en dedans. Parce qu'il n'y a pas d'appui extérieur et que le seul appui que nous puissions trouver, c'est en nous.
Et vous faites beaucoup de ponts avec votre expérience de la spiritualité musulmane, justement.
Oui, 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 tout à fait, puisqu'en islam, comme vous le savez, la présence du féminin, elle est forte, je ne sais pas si elle peut vraiment se comparer, comme dans les deux autres religions, où on voit un environnement autour du prophète féminin, on voit des femmes qui ont pris une place tout à fait importante dans la révélation, mais même après, au moment des hadiths, même au plan politique, etc.
Peut-être, rappelez-nous au moment de la révélation ce qui se passe, parce que tous les auditeurs ne connaissent peut-être pas cette histoire.
Tout à fait.
Surtout qu'aujourd'hui, la place de la femme dans l'islam, c'est pas terrible. Voilà. Hein,
donc, c'est la grande catastrophe.
Ça a bien changé. Donc revenons aux origines.
On retombe toujours effectivement sur cette question. Moi, je m'appuie toujours sur cette origine du féminin en islam, si on peut le dire comme ça, sur ce moment très important où le prophète Mohammed est en proie au doute parce que l'ange Gabriel vient le visiter et lui dit « il faut maintenant tu es un prophète et Dieu te demande d'adresser son message auprès du peuple arabe ». Et il est marié donc à cette Khadija, qui est une femme de 40 ans, qui est une caravanière, enfin une commerçante, enfin une femme d'affaires, comme qu'on pourrait dire aujourd'hui. Et il s'appuie sur elle en lui disant « Écoute, cet ange vient me voir régulièrement et je suis vraiment en proie au doute, je risque la folie. Comment est-ce que tu pourrais m'aider ? Parce que je ne sais pas si c'est le diable ou si c'est un ange. » Et il y a cette scène absolument magnifique qui est dite dans la vie du prophète de façon tout à fait officielle. Et elle lui dit « Écoute, viens sur mes genoux ». Et donc elle met le prophète Mohammed sur ses genoux et elle lui dit « Est-ce que tu le vois encore,
l'ange,
ce personnage, cet ange ?»
Oui, il lui dit non, justement. Il ne voit plus l'ange au moment de la...
Voilà, et dans sa démonstration corporelle, c'est-à-dire qu'elle met en jeu son propre corps, elle lui dit « Écoute, viens contre moi, mets-toi sous ma chemise. » Et donc, c'est vraiment contre sa peau à elle. Et elle lui dit « Est-ce que tu le vois encore ?» Et il dit « Non, je ne le vois plus. » Elle lui dit « Sois tranquille, cousin. Ce n'est donc pas le diable, c'est bien un ange, puisque un ange se retire lorsqu'un homme et une femme sont en état d'intimité. » Et il y a une autre tradition qui reprend un peu la même scène, où c'est Khadija qui va se dévoiler. Et donc elle lui dit « Est-ce que tu le vois encore ?» Et il dit « Je ne le vois plus. » Elle dit « C'est effectivement l'ange s'en va, nous quitte quand une femme se dévoile et quand elle est en état d'intimité avec son époux. »
على أطلالي واروعني
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie ce matin de Karima Berger. Nous parlons de sa vision féminine de Dieu. Je rappelle votre ouvrage Les Attentives, un dialogue avec Itil Soum aux éditions Albin Michel. Alors vous venez de nous raconter cette importance de Khadija dans la vie du prophète, sa femme, qui a joué un rôle donc déterminant pour le soutenir au moment où il doutait par rapport à la révélation. Quelles sont les autres femmes qui ont pu jouer un rôle important dans son entourage ou dans sa vie?
Alors Khadija, elle est quand même, il faut le dire, elle est le premier musulman. Je le dis au masculin de façon un peu provocatrice.
Comme Marie-Madeleine dans la tradition chrétienne est la première croyante de la résurrection, effectivement, c'est une femme qui est la première croyante.
Absolument, absolument, c'est une femme. Alors d'autres femmes vont aussi compter, mais il y a Aïcha aussi, sa plus jeune épouse, qui va aussi compter parce que donc elle est toute jeune quand il l'épouse et elle va compter de façon très importante dans l'histoire même de l'islam, puisqu'elle va être à la source de nombreux hadiths qui sont les dits du prophète.
Bien que certains hommes n'ont pas voulu accepter ces hadiths parce qu'ils viennent d'une femme, précisément. Donc il y a un problème
d'interprétation
oui, par rapport à l'origine. Quand ce sont les femmes qui sont à l'origine, la tradition patriarcale a tendance à les...
Mais alors, est-ce que cette influence des femmes auprès du prophète a marqué aussi... les textes qui ont été écrits, par exemple, parce que le Coran, vous retrouvez cette dimension féminine ou pas tellement?
Dans le Coran, Dieu s'adresse pareillement aux hommes et aux femmes. Ce sont les mêmes devoirs, ce sont les mêmes obligations. Alors il y a le verset concernant... Enfin, je ne vais pas vous dire que le Coran est féministe. Moi, je dis toujours qu'il n'y a aucune religion... en tout cas monothéiste, où hommes et femmes sont égaux. Je pense qu'il faut partir de là.
On est dans des sociétés patriarcales où partout l'homme domine la femme.
Voilà. Alors après, il y a une question d'histoire, il y a une question de culture, de civilisation, de modernisation. Sauf que nous assistons actuellement, en tout cas, à une forme de régression. Mais pas seulement, puisqu'on voit aujourd'hui le nombre de femmes qui sont en dehors de chez elles et qui travaillent et qui soutiennent leur foyer et qui gagnent de l'argent. Elles ont juste un voile sur la tête, mais je ne vois pas en quoi c'est gênant, alors qu'elles prennent les autobus, elles prennent le métro. Enfin, quand on va en Algérie, au Maroc, on voit combien les femmes sont présentes aussi dans la vie active et dans la vie économique.
Mais pour en revenir à la dimension féminine qui vous relie à Itil Soum, vous avez parlé de vide et d'intimité, en fait, de cette intimité entre justement Khadija et le prophète. Elle disait quand un homme et une femme sont dans l'intimité, à ce moment-là, les anges ont une pudeur qui fait qu'ils ne viennent pas là. Alors, je pense qu'une des choses... Un des fils rouges de votre livre, c'est justement cette question de l'intimité, de l'intériorité, de l'intériorisation. Vous venez de parler du rôle social des femmes, mais au fond, ce n'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse au plus profond de vous-même, c'est comment intérioriser une tradition, comment intérioriser le divin, comment intérioriser la loi elle-même, c'est-à-dire en s'en libérant, en s'en libérant intérieurement, s'entend. J'ai l'impression que la grande leçon d'Eti pour vous, c'est ça, pour vous en tant que femme, mais aussi en tant que croyante, ça a été comment intérioriser ce que j'ai reçu. Et c'est pour ça que je dis que c'est féminin, parce que ça a à faire avec l'intime.
C'est ça. Oui, enfin, quelque chose de l'ordre du sacré, hein, on peut dire, de l'ordre du sacré qui habite le féminin. Et qui donne alors je sais pas si c'est à cette religion, mais qui donne au rapport avec Dieu ce caractère intime. Je prends l'exemple où Eti m'a énormément aussi touchée en tant que musulmane, c'est cette présence de l'abandon chez elle, ce qu'on appelle le tawakkul en arabe, qui est une sorte de se confier, de se donner, de s'abandonner à son Dieu, non pas de façon soumise, comme on traduit trop vite le mot islam, mais de façon à la fois en se défaisant de sa propre puissance humaine et rationnelle, donc on se défait de sa puissance, et en même temps on va chercher dans la puissance de Dieu. Donc c'est un mouvement aussi qui est double, et cet abandon, quand elle dit quand il n'y a plus rien à faire, eh bien il n'y a plus qu'à laisser glisser sur soi la maison, parce que la maison, on la porte en soi. On la porte. Et il me semble aussi qu'il y a aussi une position féminine, puisque on n'est pas dans la maîtrise absolue de vouloir absolument défendre, sauver quelque chose. Elle dit, il y a un moment, il faut se laisser faire, il faut se laisser... Ce en quoi elle ressemble aussi beaucoup à cette autre femme sur laquelle j'ai écrit, qui s'appelle Isabelle Eberhardt, qui est une autre musulmane, puisqu'elle s'est convertie à l'islam, et qui a aussi vécu de façon extrêmement profonde cette notion d'abandon.
Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, parce que j'aime beaucoup aussi Till Soum, ces lettres à Ravensbrück sont bouleversantes, parce qu'on voit qu'elle vit au milieu de conditions extérieures les plus épouvantables qu'on puisse imaginer. Et en même temps, elle a toujours cette joie intérieure. Mmh. Et elle nous dit, peu importe de quel côté des barbelés on se trouve, si on a atteint cet état intérieur de joie, de paix, elle, c'est grâce à sa spiritualité, mais chacun peut l'atteindre d'une manière ou d'une autre, finalement, plus rien ne peut vraiment nous atteindre. Elle dit, mes bourreaux ne peuvent pas m'enlever ma liberté. C'est extraordinaire, ça. C'est quelle liberté intérieure. Et là, elle rejoint les plus grands sages stoïciens, absolument. Elle rejoint Spinoza. Elle est l'incarnation de la sagesse même, c'est-à-dire de la liberté intérieure au milieu des pires conditions. C'est pour ça que j'en ai parlé dans l'épilogue de mon livre sur le bonheur, parce que je trouve que c'est l'accomplissement même du bonheur. C'est-à-dire, il est à l'intérieur de soi et plus rien ne peut nous atteindre. Elle est dans une sorte de citadelle intérieure, parce qu'elle a construit son intériorité.
On ne peut pas lui ravir sa liberté. On ne peut rien lui ravir. Enfin, le pire bourreau ne pourra pas lui ravir son être ou son Dieu. Son Dieu. Et elle dit cette chose magnifique. Elle dit, mais aujourd'hui, je crois que c'est dans une lettre, elle dit, je vais recevoir... Je vais recevoir une jeune catholique, parce qu'elle commençait un peu à recevoir des gens pour les aider dans leurs problèmes dits psychologiques. Et elle dit, je reçois une catholique. Et c'est quand même extraordinaire qu'en ces temps-là, aujourd'hui, en ce moment, que je reçoive une catholique, c'est qu'il y a une sacrée force en moi pour que je puisse, moi, juive, aujourd'hui, faire du bien et aider une jeune femme catholique. Et là, voilà. Rien ne peut l'atteindre. Quoi.
Et d'ailleurs, vous dites avec humour que chacun voudrait voir dans Hetty, dans le Dieu de Hetty, son propre Dieu. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit, mais non, en fait, son Dieu est un Dieu chrétien, sa démarche est chrétienne, alors qu'en réalité, c'est juste une démarche profondément humaine et spirituelle.
Personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous, dès qu'on chemine spirituellement, chacun, d'une certaine manière, rencontre Dieu en fonction de ce qu'il est. Et donc, on va avoir une image, une représentation, une intimité, un type de relation avec cet absolu indéfinissable qu'on appelle Dieu, qui nous est personnel. Vous seriez d'accord avec ça ?
Complètement.
Et c'est ce que vous vivez aussi. C'est-à-dire
Mais que oui.
C'est l'intériorisation de la relation à Dieu, le rend vivant d'une manière qui est personnelle pour vous, mais qui ne serait pas discible de la même manière pour le voisin.
Ou qui ne serait pas la même, ou qui serait... ou qui ne puiseraient pas aux mêmes sources, parce qu'on a des cultures différentes et il y a des choses qui me parlent qui sont peut-être différentes pour une autre personne qui est catholique et qui va avoir d'autres images, d'autres représentations.
Et en même temps, au-delà de ces différences sont liées à la sensibilité, ce que vous montrez bien dans votre livre, c'est qu'en même temps, il y a effectivement, à travers des cultures complètement différentes, un point commun fondamental. C'est que on peut tous aspirer à ces mêmes dimensions les plus profondes du divin qui sont ces dimensions de joie, de compassion, de liberté intérieure, de ce qui nous fait grandir dans notre humanité.
Peut-être justement il y a quelques constantes qui peuvent faire le pont entre deux cultures religieuses, entre deux traditions, entre deux religions, il y a vraiment la présence corporelle, c'est-à-dire vraiment il y a une intelligence sensorielle du divin. Voilà, c'est-à-dire ça passe par une épreuve du corps, non pas une épreuve douloureuse, hein, mais c'est une épreuve où le corps accueille le Dieu. C'est par exemple la prière où c'est aussi le corps qui va se défaire de sa puissance, hein, qui va se. C'est aussi l'écrit. Hein, je vois, c'est vrai que c'est la présence de l'écrit en islam, de la lettre qui est sacrée, puisque le Coran, c'est notre corps sacré, si on peut dire, hein, si on veut faire un parallèle avec la religion catholique et la figure du Christ. Et la petite Marocaine va trouver chez Eti, justement, ce substrat de l'écrit qui est le moyen par lequel l'intériorité va se réaliser. C'est-à-dire la lecture, l'écriture. Quand Eti, par exemple, elle ne cesse de copier, de recopier les écrivains qu'elle aime, et notamment Rilke. Et elle dit, mais quand je recopie, je suis dans la proximité physique de ces mots. Et le mot va continuer à durer en moi.
Il y a une très belle citation, vous dites, je pense, dit-il Soum, vous dites, oh mon Dieu, donne-moi une ligne de poésie par jour.
Oui, c'est ça.
C'est merveilleux, ça.
Où elle dit aussi, juste, quand elle dit de son désir d'écrire, « Oh Dieu, fais de moi ton instrument, fais-moi écrire. » Et je ne peux pas ne pas entendre « fais-moi jouir », c'est-à-dire au sens où « donne-moi la joie de pouvoir aussi écrire et en écrivant, de te rendre grâce. »
Et c'est d'ailleurs un miracle que ces textes de Eti Soum nous soient parvenus. En réalité, il y en a peut-être eu des centaines d'Eti Soum.
Oui.
Simplement, c'est même incroyable. On n'imagine pas que dans ce camp de Westerbork, elle ait pu écrire, elle ait pu envoyer des lettres, elle ait pu en recevoir, que son journal ait été miraculeusement sauvé, en quelque sorte. C'est quand même un miracle que ces écrits existent.
Enfin, le miracle, un miracle à moitié. Ce qui est miraculeux, parce que les journaux, elle les avait confiés à Maria Tuntzing en disant, si je ne reviens pas, voilà. Donc, et en plus, elle l'avait dit, je veux écrire pour transmettre, pour être une médiatrice. C'est là où la petite Marocaine va aussi s'inspirer d'elle et va apprendre d'elle. Ce qui est un miracle, c'est cette carte qu'elle glisse entre planches du wagon à bestiaux et qu'un paysan polonais va poster que l'on va retrouver. Ça, c'est effectivement... Donc, elle fait confiance au vide. On voit bien que la vacuité, pour elle, eh bien, justement, est porteuse et est féconde et va nous restituer sa propre écriture.
C'est cette carte où elle fait une citation de la Bible qu'on n'a jamais retrouvée.
Voilà,
c'est ça, où elle dit « J'ouvre la Bible au hasard et trouve ceci, le Seigneur est ma chambre haute. Voilà. » Et visiblement, cette phrase n'est pas, en tout cas, sous cette forme dans la Bible. Donc, elle réécrit la Bible dans cette ultime carte, ce qui est très...
C'est sa liberté aussi.
Et la chambre haute, vous disiez, c'est bien évidemment le lieu, le saint des saints et le lieu le plus intime. Et alors, vous utilisez souvent une image, pour Eti Soum, qui est presque osée pour une musulmane, puisque vous parlez d'elle en termes de lumière. Or, cette lumière est la métaphore par excellence pour dire le divin, dans le Coran, et en particulier dans un verset, dans les versets qu'on appelle les versets de la lumière, que vous citez d'ailleurs, et vous dites carrément d'Eti quelle est cette lumière qu'on trouve dans le mihrab, ou la niche de prière. Peut-être précisons pour les auditeurs que la niche de prière est un détail architectural dans les mosquées qui permet d'indiquer la direction de la Mecque, ça veut dire la direction vers laquelle on se prosterne, puisque c'est la direction divine, si je puis dire, de la maison de Dieu, c'est le cas de le dire.
Mais qui est aussi, par définition, un lieu vide, justement.
Absolument.
Compris devant un lieu vide.
Exactement.
Hein, et où on peut projeter sa propre présence de Dieu, puisqu'il est l'inconnaissable.
Voilà, la seule chose qu'on peut trouver dans le mihrab, c'est des représentations de la lumière, soit une lampe, soit un feu, soit le verset lui-même.
Absolument.
Alors, ces versets que je vais lire, et vous allez nous dire en quoi, d'une certaine façon, vous pensez qu'ils ont aussi été écrits pour Eti Soum, même si je sais que c'est tout à fait hétérodoxe. « Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un verre, le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni, l'olivier qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est prêt d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît toutes choses. Et souvent vous dites que Eti a été pour vous une lumière sur lumière.
Alors j'espère, je ne sais pas, nous ne l'avons pas encore dit, mais Eti Le Soum fait référence à un Coran qu'elle avait dans sa mallette. À un moment donné, les policiers ou les policiers ou les gardes, en tout cas du camp, lui demandent d'ouvrir sa mallette dans laquelle il y a un Coran. Et je me dis, j'espère peut-être qu'elle a lu ce verset de la lumière. Oui, c'est une lumière ni d'Orient ni d'Occident et qui brûle éternellement. Il y a une forme d'éternité dans ce qu'elle écrit, dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle pense, hein, parce que c'est une femme qui à la fois croit, prie, mais aussi c'est vraiment quelqu'un qui a aussi une pensée du monde, une pensée du divin, une pensée de l'homme et une pensée de l'humain. Hein. C'est dans ce sens-là où je parle d'une lumière qui brûle et qui continue d'être alimentée par ce feu rougeoyant qu'il y a dans son cerveau, comme elle dit. Et elle dit quelque chose qui vous m'y faites penser. Elle dit « Je voudrais être le cœur pensant de la baraque ». Et le cœur pensant de la baraque, donc à Westerbork, c'est aussi quelque chose qui continue de brûler dans ce désert et dans ce désastre dans lequel elle est.
Oui, et c'est, je trouve, courageux de votre part, comme femme qui prenait la parole en tant que femme musulmane, de nous dire, voilà, il y a une femme juive qui a été Eti Le Soum, qui a eu la vie qu'elle a eue, qui, du point de vue des religions révélées, n'a pas forcément été exemplaire, mais qui a été habitée par le divin. D'une certaine façon, vous en faites une figure théophanique, comme une sorte de prophétesse qui a tenu en elle cette lumière et qui a tenu à la transmettre.
Alors chacun a ses prophètes, chacun a ses prophètes réguliers, hein, ceux que l'on connaît, et puis il y a ses prophètes secrets. Pour moi, c'est clair qu'elle a écrit un message. Peut-être qu'il ne s'adresse qu'à moi, je ne sais pas, peut-être.
Merci Karima Berger. Donc je rappelle votre livre, Les Attentives, un dialogue avec Eti Le Soum chez Albin Michel. Très beau dimanche à vous.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous recevrons Stéphane Barsac pour parler de la poésie comme langage spirituel. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Excellent dimanche à tous. Thank you.